France Culture.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer donc, place au retour de terrain. Bonjour Vladimir Vazak.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter à Arte. Serbie, un pays à la dérive, c'est le titre de votre dernier reportage. On y suit Tamara Verejan, professeure d'université à Novi Sad. C'est dans cette ville, au nord du pays, que le grand mouvement de protestation contre la corruption a démarré. Le 1er novembre 2024, 16 personnes sont décédées suite à l'effondrement de l'auvent de la gare ferroviaire qui venait d'être rénovée. Une grande partie de la population y a vu les effets d'un système corrompu qui sert les intérêts de quelques-uns au détriment de la sécurité et du bien-être de tous. Depuis près d'un an, ce sont des centaines de milliers de Serbes qui manifestent dans la rue et dans les campus pour demander des réformes et pour que le pouvoir rende des comptes sur le drame de Novi Sad. Tamara Verejan en fait partie, on l'écoute.
Et voilà, il est toujours là. Je le garde ici chez moi et quand je sors à pied ou avec la voiture, je suis prête pour aller manifester. Je ne sors plus de chez moi sans ce sac. Il est aux couleurs de la nouvelle université libre de Novi Sad, une assemblée de professeurs qui soutiennent depuis décembre les étudiants et ils se réunissent régulièrement.
Est-ce que vous pouvez nous décrire, Vladimir Vazak, ce gilet jaune et ce sac noir que Tamara Verejan vous montre fièrement et dont elle ne se sépare pas à chaque fois qu'elle part manifester ?
Tamara, c'est quelqu'un qui est en fait assez en réserve, qui s'est retrouvé, qui se retrouve complètement impliqué, engagé dans ce mouvement de protestation. Et au début, elle ne voulait pas vraiment montrer ce gilet et ce sac noir où il y a les couleurs de la révolte. Et puis, c'est en arrivant chez elle pour filmer une séquence dans son petit appartement de Novi Sad, un appartement très simple, très modeste. Eh bien, je vois ces objets, je me suis dit, finalement, ces objets-là qui sont les symboles de son engagement, le fait qu'elle ne quitte plus ce petit sac et ce gilet jaune au cas où il y aurait des protestations, des manifestations, parce qu'il y en a tout le temps. À travers la Serbie, il y a tout le temps, quasiment dans toutes les villes, des manifestations. C'est un mouvement qui est vraiment profond. Alors je voulais préciser aussi que le mouvement demande des nouvelles élections. Pour l'instant, c'est refusé, mais ça fait partie des revendications principales du mouvement de protestation.
Cette jeune femme est professeure d'université. Pourquoi a-t-elle rejoint le mouvement ? Qu'est-ce qui, elle, a motivé son engagement depuis presque un an ?
Tamara, c'est la génération 2000, c'est la génération de la chute du président Milošević, la fin du nationalisme serbe, la fin des guerres yougoslaves, avec les bombardements de l'OTAN en 1999, l'indépendance du Kosovo. C'est tout ce mouvement-là et c'est quelqu'un qui a accompagné ce retour à la démocratie de la Serbie. Et bien, c'est un retour un peu raté, c'est le constat qu'elle fait aujourd'hui. On a laissé monter au pouvoir Aleksandar Vučić, il y a maintenant presque 10 ans, et depuis ça ne cesse de se dégrader. Et là, avec cette affaire de la gare de Novi Sad, vous l'avez dit, les gens se sont dit, mais si ce pays n'est plus capable de protéger des passagers d'une gare, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment, le ver est dans le fruit, quoi.
L'émotion qui a été suscitée par ce drame est allée bien au-delà de la compassion avec des victimes de ce qu'on aurait pu appeler un accident. Quelque chose de très politique qui a émergé très vite. Hein.
C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire qu'effectivement, au départ, un accident, et ça, c'est l'étincelle qui a tout déclenché avec une manifestation monstre au mois de mars. Et là, vraiment, le rendez-vous que tout le monde attend maintenant, c'est le 1er novembre prochain, c'est-à-dire les 1 an de la catastrophe de la gare de Novi Sad. On verra comment ça va se passer, mais c'est un mouvement qui est assez étonnant parce que là aussi, c'est les étudiants et les lycéens qui ont pris la tête du mouvement. Ils ont marché à travers le pays, ils sont même allés à pied jusqu'à Strasbourg, ils sont allés à vélo jusqu'à Bruxelles pour essayer de porter leurs revendications. Et ce mouvement ne s'est pas arrêté avec l'été. Moi, j'ai déjà été plusieurs fois en reportage en Serbie. Chaque fois, ça montait. Arrivé les vacances, ça s'arrêtait à la rentrée de septembre, c'était terminé. Il y a eu ça il y a eu des massacres à un moment, des tueries de masse, il y a eu la contestation sur les questions d'environnement avec la mine de lithium. Voilà. Donc, il y a eu tout ça. Et là, ça ne s'arrête pas. Il y a quelque chose qui fait que les manifestants n'ont pas envie de s'arrêter là.
Les manifestations continuent. Le mouvement, il se joue aussi dans les campus. Vous le disiez, les étudiants sont particulièrement mobilisés. Il faut quand même rappeler qu'ils ne sont pas les seuls. C'est ce qu'on a vu émerger en mars dans les manifestations n'étaient pas composées uniquement d'étudiants, mais c'est vrai qu'ils sont en première ligne. Qu'est-ce qui se passe dans les campus depuis un an ? Pourquoi sur le sac de Tamara, on voit écrit université libre de Novi Sad.
Parce qu'ils considèrent qu'il y a des professeurs qui jouent le jeu, qui s'engagent dans ce mouvement de contestation avec les étudiants. Et donc, il s'agit d'afficher la confiance que l'on a dans les étudiants et les étudiants ont confiance dans ces professeurs pour s'opposer au régime. Mais il est évident que le régime essaie de reprendre en main les universités par certains recteurs qui appellent la police. Il y a eu des cas comme ça. Début septembre, à Novi Sad, il y a la police qui est descendue. Il y a eu dans le reportage, il y a des images. C'est assez terrible. Et donc, il y a cette idée de l'engagement avec les étudiants. Mais les professeurs, en même temps, ils ont... C'est un peu aussi la personnalité de Tamara. C'est-à-dire, c'est un peu... Elle dit souvent, il faut laisser les étudiants, c'est eux qui portent le mouvement. Mais ce qui est vraiment étonnant et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que pendant les 10 derniers mois, on a vu que la population soutenait vraiment les étudiants et les lycéens. C'est-à-dire qu'il y a une compagnie de cars qui a prêté des autobus. Quand ils ont marché à travers le pays, il y a des gens qui leur apportaient des repas. Voilà, il y a tout ça. Il y a vraiment cette idée d'un soulèvement populaire et assez sympathique, en fait.
Et il y a aussi des réticences. Vous les filmez, Vladimir Vazak, et vous, justement, vous montrez comment les étudiants se préoccupent de sortir de leur milieu universitaire. Ils ont développé un concept qui s'appelle « un étudiant dans chaque village ». Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, moi, je suis allé regarder un peu qu'est-ce que c'était que ce concept, et j'ai retrouvé le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est la convergence des luttes. Cette idée que les luttes doivent se retrouver et essayer d'exporter là où on ne l'attend pas, le mouvement, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer. Et les étudiants, donc régulièrement, ils vont dans les villages à la rencontre des habitants, parce que c'est justement dans cette Serbie rurale, un peu éloignée des mouvements intellectuels, des universités et de ces étudiants qui parlent anglais, qui voyagent, qui sont très européens dans l'âme, eh bien, c'est eux qu'il faut essayer de convaincre.
Et certaines personnes, eh bien, s'avèrent difficiles à convaincre, justement comme ce retraité dans le village de Bokovac, qui s'estime, lui, très heureux de la situation de son pays.
Ce que Vučić a fait, même Tito ne l'a pas fait. Chaque maison a deux voitures. Dans aucun pays, il n'y a ça. Dis-moi dans quel pays il y a ça. L'Allemagne ne vit pas aussi bien que nous.
Malheureusement, ils vivent mieux que nous.
Voilà le témoignage d'un retraité que vous avez recueilli, Vladimir Vazak. Qu'est-ce que Aleksandar Vučić, le président serbe, représente ou incarne pour ce monsieur ?
Eh bien, il représente une forme de sécurité, de stabilité. Il est sûr qu'après 10 mois de contestation, de blocage, Vučić avance, j'ai encore regardé hier, en disant « Moi, je suis là pour garantir votre sécurité, il faut que tous ces blocages cessent, il faut que les universités travaillent, je suis votre père, je suis votre garant de quelque part. » C'est un peu, et ça me fait beaucoup penser à la Russie de Poutine, c'est-à-dire l'idée de quelqu'un qui va être un peu au-dessus du peuple et qui va, par la propagande notamment de ses médias, avec des médias hyper puissants, qui sont vraiment dans une logique de pure propagande. Et j'aime beaucoup le verbe utilisé par les Ukrainiens quand ils parlent des Russes, ils disent zumbovat, zombifié. Et ben ces gens-là sont un peu zombifiés par la propagande. On leur dit qu'ils vivent bien, que la Serbie est un pays qui se développe, qui n'arrête pas de se construire et tout ça. Alors qu'en fait, quand on arrive à Belgrade aujourd'hui, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'on a une ville qui pourrait être une ville sophistiquée, élégante, et c'est une espèce de chaos permanent. C'est-à-dire qu'on est très très loin des villes de l'Union européenne qui se sont développées, reconstruites, aménagées ces dernières années. Donc voilà, on est dans un quelque chose. On a ces gens-là qui on ne comprend pas qu'est-ce qui fait que, si ce n'est la propagande, qu'est-ce qui fait qu'ils continuent à suivre Vučić. Mais je pense qu'il y a beaucoup de peur aussi.
Et alors, est-ce que le dialogue prend entre les jeunes étudiantes qui se rendent dans ce village et ces retraités qui tiennent ce discours-là? Il faut aussi raconter que un autre retraité ouvre sa chemise et puis sur son Marcel, il a des pins, des gros pins, un à l'effigie de Aleksandar Vučić, un autre à l'effigie de Poutine, et puis il vous explique qu'il lui en manque quelques-uns, cette collection.
Il explique qu'il en manque deux, il manque celui du chinois Xi Jinping et puis celui du dirigeant indien, et donc il est très fier de montrer ça. Alors, accessoirement, il dit aussi qu'il faudrait mettre Macron, parce que Macron, c'est un ami de la Russie, et la France a toujours été, de la Serbie, pardon, et la France a toujours été ami de la Serbie, historiquement, et la France est venue vendre des rafales à Aleksandar Vučić. Donc, voilà. Et c'est assez étonnant comme scène. C'est typiquement ce genre de scène. En tant que reporter, on tombe dessus par hasard, et on a ce face-à-face avec les étudiants, mais ils n'arrivent pas à les convaincre. C'est-à-dire que chacun est bloqué dans sa logique, et ça n'avance pas beaucoup, mais il n'empêche que dans ce village, il y a aussi des gens qui manifestaient leur solidarité avec le mouvement de contestation. Et ça, c'est très, très important. Ça va très, très loin dans le pays, ce mouvement de contestation.
Qui a largement dépassé la ville de Novi Sad. Vous le disiez tout à l'heure, le mouvement ne faiblit pas, il continue. Quels sont aujourd'hui les mots d'ordre des manifestants? Le fait de rendre des comptes sur le drame de Novi Sad, est-ce que c'est encore prégnant? Comment les choses se sont politisées, structurées peut-être depuis près de 9 mois?
Alors, c'est toute la difficulté de ce mouvement. C'est un mouvement qui a démarré donc avec cette catastrophe. Rendre des comptes, oui, il y a des gens qui ont été arrêtés, il y aura des procès, tout ça, voilà, il y a un ministre qui a démissionné, ok. Mais maintenant, ça dépasse largement, les étudiants demandent des élections, ils proposent de eux-mêmes désigner des candidats aux élections. Ils disent les candidats ne seront pas des étudiants, mais ce seront des gens en qui on aura confiance. Potentiellement, ça peut être Tamara, ça peut être aussi un autre professeur que j'ai filmé dans le reportage. Donc voilà, ils proposent ça, mais c'est aussi leur faiblesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dirigeants qui incarnent la contestation, mais c'est aussi parce qu'en fait, ils refusent un modèle dans lequel il y aurait quelqu'un de tout puissant qui prendrait tout le pouvoir. Et parce que c'est ce qu'ils payent aujourd'hui comme système. Et dans leur mouvement, je pense qu'il faut vraiment, vraiment insister sur une chose. Ils sont très, très déçus par le manque de réaction des pays de l'Union européenne et de l'Union européenne en général. Le fait que dans un pays comme la France, on n'en parle pas beaucoup de cette histoire-là, ils sont un peu déçus. Alors, il y a sans doute des raisons aussi, c'est-à-dire qu'ils ne manifestent pas en portant le drapeau européen. Parce qu'en fait, le drapeau européen, il est accaparé par le régime, puisque la Serbie est candidate à l'Union européenne. Donc, il y a le drapeau européen derrière le président Vučić quand il parle. Mais après, quand on discute avec eux, ils vous disent « Mais non, mais nous, on incarne, on veut les valeurs européennes. Donc, venez nous aider, venez nous aider. » Et donc, cet appel des étudiants et d'une partie de la population en Serbie vers l'Europe, il faudrait aussi qu'ils soient entendus. Parce que, évidemment, on a tous vu que la Géorgie était tombée de l'autre côté, que ça n'avait pas servi à grand-chose de porter le drapeau européen dans les manifestations en Géorgie. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une carte très importante qui se joue en Serbie.
Cette amertume des étudiants vis-à-vis de ce qu'ils perçoivent comme un manque de soutien, un manque d'attention même, comment eux-mêmes l'expliquent-ils ?
Ils l'expliquent par le fait qu'il y a une rupture de confiance avec l'Europe depuis pas mal d'années. C'est-à-dire qu'on leur a promis que la Serbie allait intégrer l'Union européenne. Ça ne se fait pas, mais c'est aussi parce que, justement, le président Vučić est assez vicieux pour dire « je suis candidat à l'Union européenne, la Serbie, c'est son destin », tout en n'appliquant pas les sanctions contre la Russie, tout en étant sympathique avec les Américains, tout en achetant des rafales à la France, et ainsi de suite. Donc, il joue un peu sur tous les tableaux comme ça. Donc, il y a toujours cette ambiguïté vis-à-vis de l'Europe, et c'est sans doute une des raisons du blocage, du fait que même l'Europe ne sait pas comment gérer cette histoire-là, je pense.
Ces derniers mois, ces manifestations, il y a eu des affrontements avec la police, avec les forces anti-émeutes, et des répressions également. Est-ce que la situation est en train de se tendre ?
Moi, je pense que ça peut exploser assez facilement. Je pense aussi, il faudrait peut-être pas dire ça, mais à un moment, je pense aussi que ce mouvement doit aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vraie confrontation. Ça serait triste, mais peut-être qu'il faut passer par là, un rapport de force avec le pouvoir, pour que justement d'autres pays, l'Union européenne et tous les pays qui sont autour de la Serbie se réveillent et se disent il se passe quelque chose de potentiellement dangereux. Pourquoi c'est potentiellement dangereux ? Parce que vous allez en parler là en parlant de la Baltique, mais derrière, en embuscade, il y a aussi la Russie qui est très présente en Serbie, et il y a du côté de une partie de la population serbe qui a confiance dans la Russie. Les médias russes, Russia Today et Sputnik, sont présents en Serbie. Donc il y a toute cette histoire-là. Hier, Vladimir Poutine à Sochi a fait une déclaration sur les blocages en Serbie. Donc voilà, c'est ça. Il faudrait vraiment prendre conscience de ça. Mais je pense que l'élément déclencheur, il y a eu la catastrophe de Novi Sad. Et bien, je pense qu'il va falloir aussi qu'à un moment, il y ait une confrontation beaucoup plus radicale en Serbie.
Vous parliez de l'absence l'absence des drapeaux européens dans les manifestations, puisque les manifestations partaient d'un cas serbe d'un accident dans une ville et de revendications nationales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez perçu des débats au sein des manifestants en disant « si on avait affiché des drapeaux européens, peut-être qu'on aurait obtenu un soutien de l'Europe, mais peut-être d'autres disent-ils ce n'est pas le sujet et il faut se tenir à l'écart des tensions géopolitiques si on veut faire avancer nos revendications. » Voilà, comment est-ce que ça débat dans les campus?
En tant que journaliste très européen, moi j'ai posé cette question-là évidemment aux étudiants et à Tamara en disant « mais pourquoi vous ne manifestez pas avec le drapeau européen ? Comme ça on vous verrait au moins, on comprendrait ce que vous voulez. » Et elle m'expliquait que, et les étudiants aussi m'expliquaient que justement il y avait toujours cette ambiguïté par rapport à l'Europe. Est-ce que l'Europe, c'est l'Europe qui est affichée d'ailleurs le président Vučić, ou est-ce que l'Europe c'est celle des valeurs, et dans ce cas-là on ne veut pas, on n'a pas forcément confiance dans l'Union européenne telle qu'elle s'exprime aujourd'hui, parce qu'ils se sentent quand même trahis. Alors il est clair que les étudiants sont pro-européens dans leur vie, dans leur identité, et si ce mouvement échoue, tous ces étudiants ils vont partir dans l'Union européenne, ils iront faire des programmes Erasmus parce qu'ils ont quand même accès au programme Erasmus, et ça fait partie du drame de la Serbie, c'est-à-dire que c'est ces élites comme en Russie qui quittent le pays et puis qui disent ça suffit, maintenant je peux pas rester là-dedans.
Et partir, quitter la Serbie ou rester militer, est-ce que c'est aussi un dilemme pour la professeure Tamara Verejan que vous suivez dans votre reportage? Est-ce qu'elle se pose la question?
Oui, j'ai posé la question à Tamara, elle m'a dit oui, j'ai pensé partir, mais évidemment, partir, c'est un acte très très difficile, c'est-à-dire ça veut dire quitter sa famille, quitter peut-être des parents âgés, quitter tout un environnement, puis là elle se dit c'est peut-être un peu la dernière chance pour moi de m'engager, ce mouvement-là, il ne faut pas que je le loupe, c'est-à-dire que si je ne le fais pas moi, j'aurais peut-être un problème avec ma conscience, avec mon histoire personnelle, je ne l'aurais pas fait. Donc je pense que pour l'instant, elle essaye de tenir, elle continue, et j'espère pour elle que ça va réussir, et j'espère aussi personnellement que ça va réussir, parce que je suis très profondément favorable à ce mouvement qui est un mouvement quand même très européen dans les valeurs, quoi. Je pense aussi que c'est là, il y a quelque chose qui se joue qui est très très important.
Et des prochaines manifestations sont prévues très bientôt. Le 6 octobre, on sera au lendemain de l'anniversaire de la chute de Milosevic. Et bien sûr, le 1er novembre, un an du drame de Novi Sad. Merci beaucoup, Vladimir Vazak.
Merci à vous.
Votre reportage « Serbie, un pays à la dérive » est à retrouver sur le site d'Arte. On fera un lien sur la page de Culture Monde. Merci.
Merci.
Tu es encore jeune, ne te laisse pas briser, le monde est à toi, pars à ça. Conquête, parole extraite de la chanson Le monde est à toi de Génération 5, un groupe fondé en 1977 à Belgrade et qui a apporté son soutien aux manifestants. Vous écoutez Culture Monde, seconde partie de notre émission, direction la mer Baltique.